Vous écoutez
RMC.
RMC.
La solidité défensive de cette équipe, qui est une arme nouvelle à son arc.
C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait qu'il cache la cause de. Il cache la cause. Il cause la cache.
Comme il y a Jimmy dans l'After Paris là-dessus, juste pour savoir si. Il a fini de sécher ses larmes du départ de Messi, Neymar et tous les tocards qu'il aimait bien l'année dernière.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Avec ce soir, Walid Acharchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Simon Lutin, salut Simon.
Salut Nico, salut les gars, bonsoir tout le monde.
Et Jimmy Brown, salut Jimmy.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Au programme ce soir de Génération After, avec vous au 32-16. Dans un instant, on lance le derby. Lille lance demain soir, derby pour la Ligue des Champions. Un point d'écart de club ambitieux. Quel club d'ailleurs a le plus besoin de la C1 la saison prochaine? Et quel est celui, tiens, qui a le projet selon vous le plus solide pour briller en Europe? Celui qui rendrait le plus de service au football français en se qualifiant pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Jean Baumel sera avec nous dans un instant. Avis de Walid. La suffisance de Tchouaméni en bleu le dérange. Et puis à 21h, deuxième épisode de notre feuilleton OM-PSG. C'est dans 4 jours. Ce match est-il aussi important pour Paris que pour Marseille? D'ailleurs, on aura un invité, un homme qui a porté un des nombreux footballeurs qui a porté les deux tuniques. Peter Luxin sera avec nous, lui qui a joué des OM-PSG hein, sous ses deux maillots. Quel est son plus grand souvenir? Est-ce plus dur de venir au Vélodrome en tant que Parisien ou en tant que Marseillais au Parc des Princes? Plein de questions à lui poser. 21h30, c'est l'avis de Jimmy. Après les réticences de Rennes de lâcher trop de joueurs pour les Jeux Olympiques. Jimmy, tu penses que c'est trop facile de taper sur les clubs français? Et le quiz de l'after à partir de 21h45 by Jérôme Thomas. D'ailleurs, inscrivez-vous au 732-16, vous envoyez quiz par SMS. Quiz par SMS 732-16 pour remporter un bomber shot.
Jouer et gagner sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
On va essayer d'aller chercher le back-to-back sur le quiz. Hein. T'as gagné la semaine dernière?
Ouais, la semaine dernière.
T'étais là?
Non, j'étais pas là, c'est pour ça que t'as gagné.
Ah bon?
Bah oui.
Ah, c'est pour ça que je me disais que c'était plus facile. Kevin Diaz, sans toi, ouais, il a un peu plus de mal, c'était ce que je me disais. Ouais.
On est de retour.
Ouais, d'accord.
T'inquiète pas.
Bon, hier, j'ai trouvé Bafé Gomis, donc ça pourrait faire le tripit.
Ah oui?
Ouais.
Le tripit.
Il a raison, cette expression.
Oh, c'est. Ah, t'as un peu changé. Mais il y a encore un an, tu m'aurais allumé.
Ouais, mais j'ai là, évolué. Mais mec, j'ai évolué.
Ah, t'as évolué.
Écoute, la vérité, c'est que je suis à fond dans l'NBA depuis le début de la saison.
Ouais.
C'est Wemby.
J'ai retrouvé.
C'est
l'effet Wemby. Évidemment, c'est l'effet Wembanyama.
Ah, d'accord.
Et puis, j'ai retrouvé mes amours et mes anglicismes. D'accord. Aucun problème avec ça maintenant.
Ok, très bien.
D'accord?
Ok. Ça me va. Pas du tout ça.
Et puis, à 22h, l'after avec Thibaut Jeangrande. Salut, Thibaut.
Salut tout le monde. Stéphane Guy sera là, justement. Il y aura également Daniel ce soir de retour. Et on parlera de ce choc entre l'OM et le Paris Saint-Germain dans 3 jours. On continue notre semaine spéciale. Est-ce que c'est vraiment un match important pour le Paris Saint-Germain? On en a débattu un peu dans le podcast After Paris avec Jimmy, avec Daniel. Ce soir, on continue le débat. On parlera également de la rivalité entre Lille et Lens. On sera avec un auteur, l'auteur de Histoire des derbies Lens-Lille, qui sera en direct dans l'after. Ce sera le premier match de notre week-end de Ligue 1 demain. Et puis on reviendra bien sûr sur l'avis de Stéphane, les JO, les clubs français doivent libérer les joueurs. Voilà. Rendez-vous à 22h.
C'est fort.
Je crois qu'il est d'accord, ouais.
Pas vraiment. Il ouais, y a vraiment une vraie alchimie entre Jimmy et Stéphane sur ce débat-là. Ils sont vraiment d'accord les deux.
Tu vas voir qu'on va s'en rapprocher nos positions. Quand il m'aura écouté, ouais, à 22h30, il dira.
Il changera.
En fait, j'avais un avis, mais j'ai écouté Jimmy tout à l'heure et il est pas tard.
Ouais.
Il est pas tard surtout.
C'est ton objectif.
Ouais. Merci à Thibaut, à 22h, hein, fort. Il arrive en plein 10 km à venir faire un teasing de.
Pourquoi?
De l'after.
Pas du tout. Je ne sais vraiment pas ce qu'il te veut dire ça.
À tout à l'heure, mon cher Thibaut. Pour l'after. Ça vous épate? Vous nous appelez au 32-16, bien sûr. Direct Studio, l'application sur RMC Sport pour envoyer vos commentaires. Et puis, bien sûr, la chaîne YouTube. Nous sommes en vidéo depuis maintenant quasiment 4 mois. Vous inscrivez à @after-foot pour vous abonner, pour commenter, pour nous voir également sur votre téléphone ou sur votre télé. Jean Baumel est avec nous. Bonsoir, Gibo. Pas encore, bonjour, visiblement.
Jimmy. Ah, il est là.
Salut, Gibo.
Salut, Gibo.
Bonsoir.
Salut,
Gibo. J'ai donné tout, non? Salut, Simon, Gibo. Walid, Nico, Jimmy. Tous les auditeurs, bonsoir à tous.
Bonsoir mon cher Gibo. Demain soir, c'est ton moment dans ta saison, ton deuxième moment. Ton derby à toi, Lille-Lens. Gros derby encore plus excitant quand on regarde le classement. Je rappelle quand même, Lille 4e, 43 points. Lens 6e, 42 points. Derby Toi, tu l'appelles comme ça, derby de la Ligue des Champions.
Ben écoute, c'est peut-être le derby le plus important pour les deux équipes. Tu peux même imaginer un truc de dingue. C'est d'avoir les deux qui sont en Ligue des Champions, puisque tout est possible, hein, vu comment c'est serré entre Lens qui est 6e, 42 points, et Monaco 3e, même Brest 2e, 47 points, donc 5 points d'écart entre le 2e et le 5e. Tout est possible, et c'est vrai qu'il y a un enjeu. Bah, on parle toujours de la suprématie régionale dans un derby, mais là on sent vraiment que c'est au-dessus en termes d'enjeu. Même Benjamin André en parlait tout à l'heure en conférence de presse, voilà, il raisonnait comptablement, il est encore plus important que d'habitude. Donc c'est vrai que voilà, peut-être que le perdant eh bien dira peut-être adieu à la Ligue des Champions. C'est peut-être ce match-là qui fera la bascule. Peut-être Lille, parce que si c'est Lille, ça ferait 4 points d'avance sur les voisins lensois. Et sinon, bah, c'est Lens qui repasserait devant. On peut avoir un match nul aussi, comme au match aller, hein, qui était un bon match. Ouais, c'est un match très, très alléchant qui nous attend demain à
guichet fermé. En
à guichet fermé, voilà, ouais, pas loin de 49 000 spectateurs, et dont 1 000 lensois, faut le préciser, parce qu'au match aller, les supporters lillois n'ont pas pu se déplacer suite à une décision préfectorale.
Qui a le plus besoin de la C1? Qui a le projet le plus solide pour être ambitieux en Europe? Ou en tout cas, celui qui peut le mieux nous représenter, nous, football français. Bien sûr, vous nous appelez au 32-16 pour venir en débat avec nous, supporters lensois et supporters lillois. Oui, Gibo.
Nico, concernant les compos et les groupes, hein, on a appris donc cet après-midi en cours de conférence de presse, parce que c'était pas prévu, parce qu'en fait, on avait les habituels absents, d'ailleurs, les trois nouvelles recrues de l'hiver dernier, Fernandez, Moraes et puis Ilic. Mais il avait oublié de donner un nom important, et en pleine conférence de presse, en plein milieu, Paulo Fonseca nous dit, j'ai oublié de vous dire, il manque Angel Gomes. Et là, on a
tous
c'est pas pareil, parce qu'Angel Gomes, c'est cette saison, franchement, c'est très important, notamment dans son nouveau système en 4-3-3. Donc ouais, c'est un coup dur. Et du côté lensois, c'est Jonathan Grady. Alors s'y attendait un petit peu, parce qu'on l'a vu s'entraîner à part mercredi matin lors de l'entraînement ouvert au public devant 5000 supporters, hein. C'est, il aurait pu avoir 10 000, 15 000, mais il y avait que 5000 places à Avion dans le stade juste à côté de la Gaillette. Machado, on pensait le revoir, mais c'est trop juste. Et puis Kouchanov, lui, est suspendu. Donc en défense centrale, il y aura le choix soit de mettre Aguilar ou Aïdara de l'autre côté, avec Medina et Danso.
Et Leny Yoro sera là, alors?
Oui, pas de souci. En forme, il y avait un petit virus et tout va bien. Ouais, c'est la question qu'on s'était posée. Et il a balayé rapidement en disant non, il n'y a pas de souci, il est opérationnel.
Et sur Angel Gomes, Gibo, c'est Aston Villa qui arrive rapidement. Il sera de retour.
Et Marseille. Trois semaines.
Il y a Marseille vendredi en plus, ouais, c'est vrai.
Trois semaines d'absence.
Ah oui, donc tu vas louper toute cette séquence de match. Quoi.
Ah ouais, parce que là, Lille, tu l'as dit, demain, c'est le derby. Tu as la semaine prochaine, vendredi soir, Lille-Marseille. Tu enchaînes avec Aston Villa. Et après, c'est Monaco.
Ouais, la séquence de match, elle est énorme.
Non, il y a Strasbourg, Aston Villa, le retour et un déplacement à Monaco.
Bon, avec toutes ces infos, messieurs, qui vous semble déjà le mieux lancé dans ce sprint? Tu vois qui, toi, Walid? Finir. Lance devant Lille ou l'inverse?
Moi, je vois Lille déterminé devant Lens, mais sincèrement, pas avec énormément de conviction. C'est très très dur parce que Lille va jouer là une grosse partie de la fin de saison avec ces deux matchs contre Lens et contre Marseille à la maison. Et derrière, il y a Monaco après Aston Villa, et sur ces trois rendez-vous-là, on va savoir véritablement ce qu'a Lille dans le ventre. Mais globalement, ça vaut pour beaucoup d'équipes. Ça vaut pour Marseille, ça vaut pour Brest aussi, ça vaut pour Lens. Moi, j'ai envie de te répondre. Lille, mais Lens sur la fin de saison, il y a un gros coup à jouer, parce qu'il y a plus d'Europe, et puis il y a finalement ces trois rendez-vous à l'extérieur. Ils vont aller à Rennes, ils vont aller à Marseille, ils vont aller à Lille. Mais si on sort de ces trois déplacements-là, il y a un calendrier qui est plutôt abordable. Donc
t'as le Havre notamment à domicile.
Oui, t'as le Havre. Je crois que tu joues Metz, tu joues Clermont.
Lorient. Donc,
globalement, si tu arrives à bien manœuvrer ces déplacements, qui vont pas être simples, hein, Marseille, Lille et Rennes, tu vas avoir tu peux tirer ton épingle du jeu. Donc là, à première vue, je te dirais Lille par rapport à la dynamique, par rapport à la cohérence, mais sincèrement, d'une courte tête, hein, y a pas un gros écart dans mon esprit.
Et puis il faut faire attention au calendrier, les matchs ils sont pas joués, surtout que bon, les présumées petites équipes, elles vont jouer leur survie. Il faut faire attention à la façon dont ils vont préparer ces rencontres, les gros qui arrivent en favoris et les autres qui jouent leur survie. Là où je rejoins Walid, c'est que Lille t'a quand même une vraie montée en puissance. Ils ont raté leur début de saison et ils ont repris un petit peu le dessus. Tu nous avais demandé, Nico, de jouer au jeu des pronostics, tu sais, nos prévisions pour la fin de saison. Moi, je les avais mis sur le le podium. Il y a une vraie montée en puissance. Là où en face, à Lens, j'ai l'impression que c'est un peu plus les montagnes russes. Je trouve que Lens est trop dépendante de des performances. J'ai l'impression que tout simplement, quand Sotoka et Danso sont pas bons, bah, Lens gagne pas, quoi. Tout simplement, c'est un peu plus erratique qu'un Lille dont l'effectif me paraît un peu plus solide.
Il y a un secteur défensif qui est moins bon à Lens sur les dernières semaines. Ouais, mais ça leur fait du mal.
Dans le dernier match, c'est cata. Enfin, ouais. Les erreurs individuelles contre Nice, même, ça fait très mal. Alors, c'est vrai que ce match n'est pas révélateur de la saison. Mais
tu rajoutes contre Monaco, Gibo, où le match, tu le perds en donnant.
Oui.
Donc sur ce type de match-là, si Lens, et en plus tu nous rappelles les blessures et les absences dans ce secteur-là.
Face au gros Lens, ils ont pas fait de grosses perfs cette saison. Hein.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais sur Lille, moi franchement, si tu me dis quel est le meilleur joueur de Lille cette saison, je te réponds Angel Gomez. Et là, il va manquer 3 semaines des matchs décisifs.
Moi, je dirais Chevalier.
Oui, c'est vrai que le meilleur est excellent.
Mais joueur de champ, t'as raison.
Dans le cœur du jeu, Angel Gomez, c'est avec ou sans lui, c'est vraiment pas la même équipe. Et là, tu le perds à un moment très important de la saison où tu vas devoir enchaîner. Il y a aussi, c'est quand même une belle carotte quand tu arrives en quart de finale de Conference League. Tu vas jouer à Aston Villa, qui est en pleine bourre en première ligue. C'est une affiche prestigieuse, etc. Ça va leur bouffer un peu d'énergie, les Lillois. Cet enchaînement-là, va falloir voir comment ils le négocient.
C'est ça, moi je suis d'accord avec toi.
Il peut y avoir une dynamique, même si ce match d'avant-trêve, là, des Lensois, si. Le match de demain, en fait, pour Lens, il va être déterminant. C'est-à-dire que juste avant la trêve, ils ont quand même cassé la dynamique avec ce. Moi, je ne les attendais pas chuter contre les Niçois. Là, si tu rechutes demain à Lille, les écarts vont se faire. Oui, mais il ne faudrait pas multiplier les cadeaux.
C'est trop compliqué. Sincèrement, quand on voit que Lille est mené 2-0 contre Rennes, je ne veux pas dire contre le cours du jeu, mais ils ont des occasions, ils reviennent à deux partout. Le match contre Brest, je les avais trouvés un peu mieux que Brest en première mi-temps.
Sur la régularité de la saison, Lille.
Mais c'est une régularité. C'est sur un fil.
Mais par exemple, Aston Villa, il va devoir mettre son équipe type pour les deux matchs. Il faisait tourner lors des parce que les adversaires étaient beaucoup plus faibles en groupe et lors du huitième de finale contre Stonegrass. Mais et aujourd'hui, tu vois que ça repose uniquement sur David pour marquer des buts. Hein, il a 15 buts quand tu redescends. T'es à 4 buts pour Yazidche, donc voilà, c'est aussi je pense que David, tu seras obligé de l'aligner tout le temps. Alors après, il est jamais blessé, il est capable d'enchaîner, ça c'est pas un problème, mais voilà, c'est aussi il y a une part de risque aussi à lui faire enchaîner pas mal de matchs.
Quand Nico dit que c'est plus régulier Lille. Mais t'as raison d'insister sur le fait que Lille, ils vont commencer leur aventure européenne maintenant. Là contre Aston Villa, contrairement à Lens qui a dû puiser depuis septembre
et qui va être libéré
dans leurs ressources et qui sur les 8 derniers matchs eux vont être libérés.
Ils ont laissé du gaz, je pense, même mentalement sur ce début de saison. Lille, les Lensois, je pense qu'ils ont laissé de l'influx et ils vont peut-être le payer en fin de saison.
Être dernier à la 5e journée et être dans le coup pour une place en Ligue des Champions au minimum l'Europe, c'est quand même. Ah, c'est franchement mentalement c'est costaud parce que franchement dans le début de saison tu te dis voilà, ils vont faire une Ligue des Champions qui a été plus que correct avec 8 points, hein. Je rappelle que c'est le même nombre de points que le PSG et qu'ils sont pas passés en 8e de finale, mais être 6e, être vraiment dans le coup,
un point
du 4e qui joue le barrage de Ligue des Champions.
Si Lens s'impose demain soir, c'est un énorme coup.
Très gros match.
Et un élément très important, parce qu'on en a parlé en conférence de presse, c'est quelque chose dont on fait pas souvent référence, mais Lille à domicile, c'est un truc de fou. Cette saison, c'est une seule défaite, c'était contre Reims, le 26 septembre, mais depuis août 2022, c'est qu'une seule défaite, c'est contre Reims. Depuis Paulo Fonseca est à la tête de cette équipe de Lille, il n'a connu que 3 défaites. Alors une très 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 dure, hein, contre le PSG avec 7 buts encaissés. Derrière, il y avait eu la défaite contre Nice, donc c'était fin août 2022. Et après, il y a eu ce 2-1 en faveur des Rémois. Pierre-Montroy, c'est très costaud, hein, les Lillois.
Et Rennes mené 2-0 à la 84e.
Exactement. Et après, tu sens même qu'ils sont capables de.
Gibo, tu restes avec nous dans un instant. Tiens, on les appelle au 32-16. Norman. Je pose une question un peu provoque, mais quand même, dans l'intérêt du football français, de son ranking UEFA, que vous préférez quoi, Lille ou Lens en Ligue des Champions? Si c'est l'un des deux, appelez-nous également pour en débattre au 32-16. Vous écoutez Génération After CRMC, il est 20h15. On revient dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Jimmy Brown, avec Simon Dutin, avec Olivier Dacharchour, on est ensemble jusqu'à 22h, c'est Génération After. On lance ce soir le derby Lille-Lens, hein, demain. Ce sera d'ailleurs en direct sur RMC, débriefé aussi dans l'After.
Il m'excite ce derby, moi.
Mais moi j'adore ça, moi j'adore ce derby. ce Lille-Lens. Alors certains diront oui, on préfère à Lens que l'ambiance, ouais, les couleurs,
oui,
tout ça.
Oui,
attention demain, Gibo est avec nous, quasiment 50 000 personnes, ça va être le feu. Je vous rappelle également.
T'en as parlé avec passion pendant la pub, c'est dommage que tu ne sois pas intervenu dans le débat.
Moi j'aime ça. Je suis là pour mettre en lumière les amis. Je vous rappelle également que c'est le retour du coffre RMC. Nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros. Dès que vous entendez ce signal-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16. Et je vous rappelle que vendredi 29 mars, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit 50 000 euros. Donc envoyez coffre au 732-16. L'alerte, je le précise, peut tomber à tout moment pendant l'émission, même pendant la pub. Soyez à l'écoute d'RMC. Alors Gibo est toujours avec nous, bien sûr. J'ai posé une question qui peut agacer peut-être certains supporters lensois ou lillois. Il peut paraître un peu méprisante. Quel est dans l'intérêt du foot français très mal formulé. Dans l'intérêt du foot français, Lens ou Lille, quel club préférez-vous, les amis? D'abord, j'accueille Normal, 32-16.
Elle est longue la question quand même.
Bah, elle est claire maintenant.
En gros, on veut qui entre
qui on préfère,
qui a le projet Lens, le plus solide,
voilà,
pour ambitieux, pour représenter la France en Ligue des Champions, si c'est l'un ou l'autre. D'abord, j'accueille Norman, le 32-16, supporter lensois. Salut Norman.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans Génération After. Comment tu prends ma question?
Elle est simple à répondre. Hein. Lens, est-ce qu'il y a autre
chose? Bon. Ah, c'est normal de répondre ça.
Excellent. Pas mal, excellent. Encore une fois. Bien, Walid.
Bien. Il n'y a pas de condescendance, encore une fois.
Bon, toi, tu as forcément envie d'y regoûter. Hein. Tu as aimé.
Bien sûr qu'on a aimé. Et puis en plus, on va essayer d'être objectif de seconde. Mais Lens a joué le jeu à fond. Cette équipe nous a fait vibrer. Je pense pas que les supporters de Lens. Elle prend 8 points. Elle n'a pas été ridicule. Moi, je trouve que. Voilà, c'est un bon représentant des clubs français. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent pas le jeu parce qu'ils estiment que le plus important c'est le championnat.
On va pas en Ligue des Champions, Norman, quand même. Pas en Ligue des Champions.
Il y a beaucoup d'équipes, elles devraient dire qu'elles font ça parce que quand on prend 0 points, par exemple, pendant toute une période, non, il vaut mieux dire qu'on a essayé de jouer le championnat. Mais Lens, ça a été, je trouve, avec un jeu ambitieux, avec un stade plein, une vraie ferveur populaire. Bien sûr qu'on a envie d'y goûter et objectivement, je pense que Lens est une équipe qui peut apporter pour le coefficient UEFA, en tout cas plus que beaucoup d'autres équipes qui ont joué la Ligue des Champions ces 10 dernières.
C'est vrai qu'ils ont pris 8 points, on le rappelle, en phase de groupe cette saison.
C'est comme le PSG.
Gibo, toi tu préfères Lens ou Lille?
Ah, vous voulez
demain. Allez, vas-y.
Et demain je vais. Non, je peux pas. Je peux pas.
Gibo, tu es pour qui? Vas-y.
Papa ou maman?
Non, non, mais
moi je sais pour qui il est.
Franchement, aujourd'hui, moi c'est simple. Les deux méritent. Moi j'ai envie d'avoir l'embarras du choix des matchs, les gars, la saison prochaine.
Les deux en Ligue des Champions, tu vois. Madrid, le mercredi à Dortmund.
Non mais c'est une question qui est super compliquée parce que Lille a fait 8 participations. Lille, et c'est vrai, plus souvent en Ligue des Champions, c'est depuis l'an 2000 parce qu'ils
sont sortis de la poule la dernière fois, Gibo.
Ils ont joué Chelsea, c'était avec Gourvenec, qui est d'ailleurs un championnat compliqué, mais qui a réussi quand même à mettre Lille en 8e de finale. Et Lens, on a l'impression que on retrouve le Lens de fin 90 début 2000, parce que certes l'année dernière ils n'ont pas été champions, mais ça joue à pas grand chose. Ils font une campagne de Ligue des Champions qui est très bonne, comme ils l'ont fait par le passé. Alors certes ils en ont moins, mais on a l'impression de retrouver un Lens aussi puissant. Enfin, il n'y avait pas le PSG qui était aussi puissant. Alors on va dire que c'est un Lens qui compte aujourd'hui, qui doit être européen. Moi, le Lens des années fin 90, début 2000, j'ai l'impression de le retrouver aujourd'hui, même si il y a des plus grosses équipes, parce que Lens faisait partie à cette époque-là des gros clubs. Là, Lens est parti, peut prétendre régulièrement à faire partie du top 5.
Top 5, enfin, Simon. Lens, ouais, ou Lille?
Lille. J'exagère peut-être top 5 parce qu'il y a des budgets beaucoup plus forts Nice, avec Lyon qui sont notamment Lyon qui sont derrière, ou Marseille. Mais Lens devrait être régulièrement en Coupe d'Europe comme Lille. Voilà, c'est l'idée.
Après, c'est toujours un crève-cœur parce que t'as envie de voir Bollard en Ligue des Champions. On l'avait dit avant le début de la saison. Moi, je pense que dans un Bollard, quand t'as une équipe qui se qualifie pour la Ligue des Champions à Lens, les grands soirs à Bollard, je pense que tu peux taper n'importe qui.
C'est plus sexy Lens avec des champions.
Bah, Arsenal, c'est quand même le match qui nous a émerveillé.
Justement, si tu me demandes de choisir, je te dis Lille parce que je pense qu'ils ont les reins un tout petit peu plus solides. Djibo rappelait que ils sont régulièrement dans le. Je crois c'est 9 ou 10 top 5 depuis l'an 2000 quand même. C'est régulier, on s'est habitué à aller voir. J'ai l'impression que dans le recrutement, c'est un petit peu moins la loterie que ce que Lens fait, même s'il y a beaucoup de réussite côté lensois. Je préfère la politique de recrutement de Lille. Les prospects qui viennent, qui progressent et qui s'en vont après. On a vu Léao, il y a Jonathan David, Zegrova. Moi, j'aime bien la
quand même 2-3
on a vu des ratés, il y en a partout
pour rebondir sur ce que dit Simon. Je pense que c'est plus vital pour ça m'attire pas plus les deux, franchement. Moi, j'ai envie d'avoir la même réponse de Suisse que Gibault, les deux. Moi, j'adore le public lensois, j'ai adoré ce qu'a proposé Lens en Ligue des Champions cette saison, même s'ils ont pas réussi à sortir de la poule. Lille, ils ont une culture européenne, là ils le prouvent, ils sont encore en quart de finale de Conférence League, mais oui. Lille, s'ils sont pas en Ligue des Champions,
c'est compliqué non plus d'y arriver, hein.
Oui, mais moi après
ça aurait été un scandale de pas être en quart de finale.
Tout le monde l'a pas fait, Gibault. Oui,
c'est vrai.
Ils vont aller en finale, en plus, Gibault.
On verra.
Ah, si tu passes à Aston Villa, c'est ouvert après.
Hein. Ouais, faut aller faire cette Fener en demi.
Il y a Fener Olympiakos aussi, ouais. Donc.
Bref, moi je regardais en préparant l'émission, Ismaili, Yazidche, Ounas, fin de contrat cet été. Dans un an, Cabela, Umtiti, Angel Gomez, Jonathan David, Lenny Yoro. C'est-à-dire que si tu vas pas en Ligue des Champions, sans compter l'avenir de Paulo Fonseca, si Fonseca ne va pas en Ligue des Champions, est-ce qu'il va rester à Lille ou pas? Moi, je pense que s'ils sont pas en Ligue des Champions, il y a de grandes chances qu'ils s'en aillent. Donc, tu te dis que s'ils arrivent pas à accrocher le top 4, Lille, la saison prochaine risque d'être beaucoup plus compliquée que pour Lens, qui s'est bien structuré, qui a verrouillé tout le monde. Alors, il y a une incertitude aussi, peut-être, sur l'avenir de Francaise.
Non, mais c'est quoi là? Non, mais tu rajoutes sur Lille, tu rajoutes la dette aussi.
En plus, financièrement, c'est pas un club, voilà, on sait que
Olivier Létang
a
dit à de nombreuses
reprises qu'il a récupéré une situation compliquée après Gérard Lopez, etc.
Non, mais Jimmy, c'est quoi la question? C'est qui on a le plus besoin ou qui on a envie de voir performer?
Ah, c'est pas pareil, hein.
Qui a le plus de chances de performer?
C'est deux questions différentes. Si tu me poses la question, si c'est la première question, je suis d'accord avec toi. Lille en a besoin beaucoup plus que le RC Lens. Si Lens fait pas Ligue des Champions, on va s'en remettre, tout le monde va bien dormir cette année. Maintenant, qui est-ce qui a le plus de chances de rayonner en Europe en étant dans ce championnat de France? Moi, je suis incapable d'y répondre pour plusieurs raisons, parce que en fait, je ne connais pas l'avenir des deux coachs. Je sais pas si Francaise va continuer, je sais pas si Paulo Fonseca va continuer. Je sais pas non plus, encore une fois, si demain tu me dis bon, aujourd'hui, Walid, qui est l'équipe la plus cohérente? Je te réponds Lille comme Simon. Mais si les mecs ils perdent Lenny Yoro, si Chevalier il part, si demain Jonathan David part, Fonseca il part, je sais pas qui va venir sur le banc des remplaçants pour suppléer un potentiel départ de Fonseca, je peux pas te répondre Lille ce soir, moi. Et de l'autre côté, la même chose. Je sais pas, encore une fois, s'ils vont perdre Kevin Danso, s'ils vont péter Franck, ils se disent bon, bah moi je vais faire une Jurgen Klopp, les gars. Je vais me reposer un an et puis je verrai plus tard. Donc moi, sincèrement, jeudi 28 mars, je peux pas te répondre à cette question.
T'as tendance à penser quand même que c'est un peu plus stable à Lens qu'à Lille. En tout cas sur l'effectif et sur les finances, etc.
Les finances, Gibault, on parle.
Bah donc on répond. Donc si c'est une question, on répond Lens alors.
Les finances à Lille, c'est plus quasiment ou plus de 100 millions d'euros de dette quand même. Hein.
On nous donne jamais l'info, mais on sait qu'à un moment, on était à plus de 200 millions d'euros. Là, on est au-dessus de la barre des 100. On n'a pas le chiffre exact parce que bon, le club ne veut pas le communiquer. Ça peut se comprendre. Bon, en tout cas, ils font des efforts. Ils passent la DNCG les doigts dans le nez, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne direction. Mais oui, on sait qu'il faut faire gaffe à tout du côté de Lille. Essayer de bien vendre. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des dossiers qui vont être compliqués. Jonathan David, il lui reste un an de contrat. Heureusement qu'il retrouve les chemins défilés parce qu'il enquille les buts en ce moment. 10 en championnat depuis la trêve. Donc c'est tant mieux pour Lille et tant mieux pour lui.
S'il pouvait faire une double confrontation incroyable contre Aston Villa pour exciter les clubs de première ligue, ce serait bon pour voilà. Lille. Hein.
Yoro, c'est pareil, ça serait une belle plus-value. Donc c'est vrai que c'est cette fin de saison. Moi, je sais que. Voilà, il y a Aston Villa qui est voilà. Si ça avait été un autre club pas trop connu, leur priorité, on le sait, c'est d'aller en Ligue des Champions. Voilà, oui, c'est l'objectif depuis le début de saison. Ils le disent jamais en conférence de presse. Ils vont jamais te donner le nom, la phrase. On veut aller en Ligue des Champions, mais c'est leur objectif.
C'est peut-être le moyen de garder encore une saison Paulo Fonseca. Simon.
Non mais je trouve ça un peu. Excuse-moi, mais là Gibault, je m'adresse à toi, mais j'ai l'impression que la vision elle est un peu caricaturale. C'est quand même pas le Bayern Munich, le Racing Club de Lens, s'ils sont pas en Ligue des Champions. Il va bien falloir payer les salaires, il va falloir vendre des mecs.
Tu
valorises qui? Bon, dans le saut,
tu vas pas vendre
Openda.
Tu vas gagner, mais avec les droits de la Ligue des Champions, t'es
tu
déjà.
Tu partais avec Dugras de la saison dernière, quand même, à Lens.
T'as 8 points, ça fait 8 millions d'euros. T'as les droits télé. Non, ils vont avoir un budget de plus de 100 millions d'euros.
Mais silence,
je veux dire, le mot de la oui que t'as pris à Nancy et que tu dois payer avec des cacahuètes, au bout d'un moment, il va taper au bureau, il va vouloir son salaire.
Le mot de la fin,
Norman. Ça va se passer comme à Lille avec deux ans
non,
de
mais les départs sont connus. Enfin, les joueurs sont.
Norman.
Ouais, juste pour rebondir, là, c'est le stade salarial de Ligue 1. Donc, je pense pas qu'il y ait d'urgence à être qualifié en Ligue des Champions, oui. Du fait de devoir vendre, etc.
Exactement, bien sûr.
Le budget, je crois qu'il a pris 40 millions avec la participation en Ligue des Champions, les différents droits télé, le match contre Fribourg, etc. Alors, si la question est qui a besoin, c'est évidemment Lille. De qui on a envie de voir et qui performera en Ligue des Champions, c'est Lens. Voilà.
Après, en toute objectivité, bien sûr.
Bon, voilà, c'est le mot de la fin, Norman.
Toujours. Merci, monsieur.
Bon match à toi demain soir, Norman. Hein.
Merci beaucoup.
Tu y seras, Norman ?
Bien sûr.
Bon, bah, on va peut-être se croiser, là.
J'espère bien.
Tu seras à l'opposé de moi, mais bon, je
sais pas. Jibo, sa tour d'ivoire là-haut avec des, avec une coupe de champagne.
Je serai aussi haut que Norman, mais lui sera dans un angle.
Non, c'est faux, j'ai été voir Lille-Le Havre. Très accessible, Jibo. Très, très accessible, Jibo.
Ah oui,
Jibo.
Ah ouais, non, mais moi, si tu viens voir, mais c'est avec plaisir.
On a parlé pendant une heure, c'était très intéressant.
Mais pour trop connaître, Jibo, il faut chercher le rouge et jaune alors, ou le blanc et rouge, j'ai pas compris.
Écoute, il y aura moins du rouge.
Écoutez le commentaire de Jibo demain, vous aurez un indice sur sa préférence.
En tout cas, c'est beau de reprendre la Ligue 1, ça fait deux semaines, on est en train d'international, on attend ça, etc. Tu reprends avec un beau bilan.
La semaine prochaine, j'ai un t'imagines, j'ai un Lille-Marseille, un Lens-Le Havre et un Paris-Roubaix sur le même week-end. C'est pas beau ça ?
On a un week-end, on commence avec Lille-Lens.
Petite affiche de Ligue 1, Paris-Roubaix.
Et un petit Valenciennes-Saint-Etienne. Bon, par Valenciennes, ça va être dur. Mais bon, ils sont en demi-finale de la Coupe de France, quoi.
On a un week-end qui commence par Lille-Lens et qui termine par Marseille-PSG avec un City-Arsenal, Dortmund-Bayern.
On va se régaler. Ouais. On va passer du temps avec madame, je pense, ce week-end. Ouais. Hein, on est d'accord.
Lundi plutôt. Plutôt lundi.
Allez, on revient dans un instant. Merci Norman. On appelle 32-16. Vous écoutez Génération After. On parle de Marseille-Paris sur RMC. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Simon Dutin, avec Jimmy Brown. Vous pourrez écouter aussi en podcast dès demain, même dès ce soir. C'était pas dans Génération After que nous venons d'enregistrer. Voilà, je vous explique comment ça se passe pendant la pause. On met ça en boîte. Hein. Il s'agit d'Hervé Renard. C'est bien marré.
Ouais.
On a beaucoup parlé des prestations de Kylian Mbappé pendant le rassemblement avec l'équipe de France. Toi, Walid, ce soir, tu veux parler d'Aurélien Tchouaméni, un avis qui va sûrement émouvoir pas mal de supporters de l'ancien Bordelais. Tu l'as trouvé un peu suffisant sur les deux matchs en bleu. Jingle, Walid.
Comment c'était ce dessin animé où il y a les chiens là ?
Les Aristochats ?
Pardon, je connaissais pas celui-là.
Moi j'allais dire encore top 3, mais en fait je dis ça à chaque fois et ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est un métier. Non, oui, je voulais parler d'Aurélien Tchouaméni parce qu'on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni est un homme que j'aime beaucoup, notamment dans son discours. Encore une fois, il a fait des conférences de presse de très très bonne facture qui contrastent totalement avec ce qu'il a apporté sur ce rassemblement. Alors, on a eu les infos, indiscrètes ou non, là récemment, qu'il était malade contre le Chili. Donc, il faut le dire, même si pour moi ça n'enlève pas mon propos parce que c'est un propos qui est global. Je trouve qu'Aurélien Tchouaméni en équipe de France, parce que c'est peut-être pas le cas et c'est pas le cas tout le temps avec le Real Madrid où il est capable de faire des vrais bons matchs et d'avoir des vraies bonnes périodes. Je trouve qu'en équipe de France, il est trop dans un confort. Il est trop dans un confort et que le fait de peut-être ne pas avoir de solution de remplacement, je le vois arriver en équipe de France. Quand je le vois jouer, c'est très scolaire. Parfois, il est même dépassé par l'intensité. On parle d'un joueur qui devait devenir après la Coupe du Monde un vrai leader. Et quand on voit la claque qu'on a pris contre l'Allemagne notamment, je trouve que la performance de Tchouaméni, elle est un peu passée inaperçue. Je trouve que sur trois des quatre buts qu'on prend, on prend des frappes à 25 mètres devant la surface de réparation, ce qui doit être une zone où Tchouaméni doit protéger. On a beaucoup parlé de l'animation défensive, mais l'animation défensive, c'est aussi le rôle de Aurélien Tchouaméni. Je trouve qu'il y a très peu de dépassement de fonction, alors que techniquement, ça doit être un joueur qui doit nous apporter ça. Et clairement, je trouve que dans l'attitude, il y a une forme de, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais une main dans la poche pour pas dire autre chose quand il joue. J'ai l'impression de voir un joueur qui a déjà gagné deux Coupes du Monde en équipe de France et qui a 100 sélections. Et ça me dérange un peu. Et si on a un peu de respect pour Aurélien Tchouaméni, par rapport à ce qu'il est ou ce qu'il peut être. Si on a un peu de respect par rapport à l'équipe de France, on peut pas faire fi de ce qu'il a fait sur le rassemblement et même globalement de ses performances habituelles. Alors là, on dit qu'il est malade contre le Chili. Bah, s'il est malade, il joue pas, qu'il se préserve.
Il y a deux seuls qui ont enchaîné, c'est qui est bizarre.
Ou en tout cas, Deschamps doit mettre autre chose. Il met Guendouzi, il met Camavinga, il met ce qu'il veut, il fait un autre milieu de terrain, mais sans Tchouaméni. Et je pense pas qu'il était malade ou souffrant contre l'Argentine, ni même contre le Maroc, ni même contre l'Angleterre, parce que malgré son but, il met un très très beau but qui est très important, mais dans son rôle de milieu de terrain, je les avais trouvés dépassés, notamment à l'époque. Et voilà, j'en attends beaucoup plus. Tchouaméni vient pas en équipe de France pour faire contrôle passe et bomber le torse. Il doit faire beaucoup beaucoup plus. Et quand j'entends, et je terminerai là-dessus, c'est un transfert à 80 millions d'euros au Real Madrid, etc. On parle d'un joueur qui est dans la caste normalement des plus grands. Quand je vois un Declan Rice, quand je vois un Rodri, quand je vois ce qui se fait de mieux, et ben je trouve quand même qu'on est peut-être parfois pas assez exigeant avec Tchouaméni. Et j'espère qu'il va rebondir sur les prochains rassemblements et notamment sur l'Euro avec l'équipe de France, parce que sinon je continuerai à le dire. Voilà.
Vous nous appelez au 32-16 pour réagir à l'avis de Walid, bien sûr. Simon, tu voulais réagir aussi.
Oui, je veux réagir. Moi, ça me tient à cœur. C'est un mec que j'ai vu grandir. Il a été formé au Girondins. Il a montré une maturité. Je déteste ce mot, mais bon, il s'exprime très bien. Moi, je trouve que il a embrassé cette fonction de leader qu'on lui prête, qu'on a envie de lui coller sur le dos. Je trouve que Walid est un peu dur. Ok, il a pas été très bon. Moi, je l'avais trouvé absolument remarquable. Je crois que c'était contre l'Irlande en qualification. Il avait marqué. Il avait fait un match exceptionnel. Il a connu des hauts et des bas. Tu rappelais le prix de son transfert au Real, qui était très élevé quand même par rapport à ce qu'il avait prouvé. Mais c'est quand même souvent le cas avec les top prospects en Europe. Je trouve qu'il s'est bien relevé parce que ça se passait pas, c'était pas linéaire sa progression au Real. Il a regagné sa
place. Et
quand tu dis il n'est pas là pour faire contrôle passe. Il est là pour faire quoi? Explique-moi, parce que il n'est pas là pour nous faire du Florian Wirtz, du Wirtz.
Je trouve que dans son impact sur le jeu, et notamment ça s'est fait ressentir sans Griezmann, et c'est aussi le cas au Real Madrid où je trouve qu'il fait des belles choses, mais qu'il est sublimé par des joueurs autour qui techniquement sont très très au-dessus de la moyenne.
Mais c'est ça, le cœur de ton propos est là, c'est que tu joues au Real, t'es avec Valverde, Kroos, Modric, là t'arrives au rassemblement, tu joues avec Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur que j'adore, mais qui est pas du tout prêt pour jouer au niveau contre l'Allemagne, Camavinga, Rabiot qui était diminué, parce qu'on parle beaucoup de Tchouaméni, mais Camavinga je l'ai pas du tout trouvé transcendant sur le rassemblement. T'en as pas un en vrai. Fofana si contre le Chili fait un bon match, il met son but, bon etc. Match. Tu peux le ressortir un petit peu, mais sinon au milieu de terrain ils se sont tous plantés.
Non mais aujourd'hui Tchouaméni c'est pas un joueur mid, c'est pas un joueur standard. On a le droit d'attendre.
Non mais
quand
dans
même
sa position,
de l'impact et même défensivement quand tu vois comment Alexis Sanchez, alors il était malade. Ok bon, prenons Florian Wirtz, prenons Moussiala. Comment je sais pas. Il était pas malade contre l'Allemagne. Apparemment, il était pas malade contre l'Allemagne. Il s'est fait tourner.
Pourquoi tu parles
c'est les échos que j'ai eu. Non, mais c'est les échos que j'ai eu là-dessus. Donc, il faut le dire. Il faut avoir une honnêteté intellectuelle là-dessus. Contre l'Allemagne, il était malade. Et contre le Maroc. Et contre l'Argentine. Donc, moi, je dis juste que Tchouaméni, dans ces fameuses, relève de Kanté et de Pogba notamment, il y a des moments où je trouve que on est assez indulgent par rapport à ce qu'il apporte.
Justement, Walid, tu parles
de Pogba. Oui, contre l'Irlande, de Jimi Hendrix et de Shane Long, il a été très très bon. Oui, très très bien. Mais moi, si j'ai du respect pour Tchouaméni, non mais si j'ai du respect.
Pays-Bas, il fait un bon match aussi.
Oui,
je suis très dur alors.
Non mais Walid,
juste que ce rassemblement là.
Mais il n'a pas à sauver sur le rassemblement.
D'accord. Oui, mais il fait partie des leaders, il fait partie des joueurs qui s'élèvent, qui parlent. J'aime beaucoup quand il parle.
Ouais, il parle. La vie de Walid fait l'unanimité sur le chat.
Non, mais c'est un super
YouTube.
Mec. Mais à un moment donné,
oui, mais après, c'est pas un concours d'éloquence, l'équipe de France. C'est super. Il faut être bon sur le terrain.
Parce que
Tchouaméni, nous rappelle Stark, qui avait aussi ce petit côté nonchalant à Bordeaux. T'as Manhattan qui lui dit, je pense que Tchouaméni, on lui a mis un statut titulaire indiscutable beaucoup trop tôt. Il n'est évidemment deux hommes que tu cites, ni Pogba, ni Kanté. Vous l'avez surcoté, nous dit Paradix. On nous dit, également, il y a toujours des excuses pour les internationaux français.
J'entends le chat, mais est-ce que tu peux leur demander qui mettrait à sa place?
C'est une question qu'on pose également.
Problème, ça. Mais pourquoi on est déçu par les performances de Tchouaméni? Pourquoi on trouve qu'il n'est pas assez créatif? Pourquoi il n'est pas assez décisif? Parce qu'on a personne. On manque de créativité. On manque de. Là, je reprends ton. On manque de joueurs frissons. On a des joueurs, comment t'appelles ça? Des joueurs yaourt nature au milieu. Oui. On a personne qui te transperce le milieu adverse.
Mais
on
ne lui demande pas d'être le joueur frisson.
On a personne qui te fait rêver.
Notamment. C'est un garçon qui prend un minimum de risque.
Au niveau du morphotype.
De prendre un peu plus de risque avec le ballon.
Il a un peu le même gabarit que Pogba. Il a marqué quelques buts de loin. On s'est dit, c'est le nouveau Pogba. Pogba. Non, mais c'est je pas pense Pogba, il a pas la moitié de la créativité qu'avait Pogba.
Rappelle-toi à Monaco l'initiative qu'il prenait à chaque fois.
Je pense qu'il a été un petit peu surcoté, un petit peu porté au nu, un petit peu trop tôt. Et je pense qu'on attend trop de Tchouaméni. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il joue propre,
juste
qu'il
rassure. Contrôle pas latéral.
C'est pas de lui que j'attends le frisson et l'étincelle pour faire gagner, pour transpercer la défense.
Quand tu joues à 3 milieux, c'est aussi bien que moi, Wadid. Quand tu joues à 3 milieux, c'est pas pareil. Quand vous comparez à Pogba, c'était à 2 au milieu, il était plus en position où il pouvait se projeter, etc. La sentinelle de Deschamps, tu connais. Pourquoi c'est le gars qui est censé un peu ratisser, donner, distribuer.
C'était qui la sentinelle pour l'Allemagne la semaine dernière?
Et c'est Griezmann.
Non, mais c'était qui la sentinelle?
Bah, c'est Tchouaméni.
Non, alors pour l'Allemagne, c'était qui?
Ah, mais il joue d'une manière
donc
différente.
Donc c'est Kroos qui était meneur reculé, oui. Et qui c'est mais un joueur frisson.
Tu n'as pas ce profil-là en équipe de France.
Mais pourquoi, moi je pense que Tchouaméni est capable de faire ça. Pourquoi Tchouaméni pourrait pas avoir des passes vers l'avant? Pourquoi Rodri, c'est un joueur frisson? Rodri, c'est un joueur frisson. C'est le joueur frisson pour moi actuellement, avec d'autres, hein, mais dans un registre plus reculé, qui va impacter le jeu. Je long, je cours. C'est lui qui a le chronomètre de l'arbitre, en fait. C'est lui qui gère le temps. Aujourd'hui, Tchouaméni.
Il compare au meilleur du monde à son poste. Rodri, pour moi, c'est le meilleur du monde à son poste.
Mijo,
c'est un excellent joueur, mais là, c'est le tout meilleur.
Mais joue en Real Madrid, il joue en équipe de France. Est-ce qu'on a le droit d'attendre une passe vers l'avant?
Tu as tous les droits.
Un impact, que à chaque fois que je vois un mec frapper aux alentours de la surface de réparation, je vois le ralenti. Il est où, Tchouaméni? Ah, il a 4 mètres. Non, mais j'ai le droit, on a le droit d'avoir ça, de demander ça.
Tu as tous les droits, Walid.
Non, mais
on fait une pause et on a le droit aussi d'accueillir des auditeurs de Génération After sur RMC dans un instant. Yannick sera avec nous. Puis Fred Armel va nous rejoindre aussi. Lui qui l'observe au Real depuis son arrivée
au Real, il est plutôt bon au Real.
Chez les Merengues. Reste avec nous, c'est Génération After. On prolonge sur le 4 Tchouaméni après à 21h. Deuxième épisode de notre feuilleton. Marseille PSG, dimanche soir. Reste avec nous. Vous écoutez RMC, il est 20h42.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, avec Simon Dutin et avec Walid Acharchour, débat passionné autour d'un joueur de l'équipe de France dont on parle assez peu, Aurélien Tchouaméni. Tiens, je vais accueillir Fred Armel dans Génération After. Il devient habitué. Bonsoir, mon cher Fred.
Oh, ça me rajeunit de jour en jour.
Salut, Fred. T'as pas eu 2 ans hier, t'en perds encore 2. Tiens, je vois tes cheveux repoussent aussi, c'est incroyable.
Oui, exactement.
C'est fou. Bon, en plus, c'est un sujet que t'aimes bien, toi. Tchouaméni, tu glisses parfois quelques éléments sur le Tchouaméni du Real Madrid le lundi soir. Bon, je sais pas si t'as écouté, hein, Walid a un constat. Il le trouve pas assez dans l'initiative, notamment en équipe de France. Au Real, c'est différent, il faut le préciser. Hein, 8 fois titulaire au poste de défenseur axial. Ouais. Comment tu juges et comment surtout il est jugé, lui, en Espagne, Tchouaméni? Quel statut il a aujourd'hui?
Alors, comment être poli et diplomate? On a du mal à le qualifier, en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas encore convaincu tout le monde au Real. Voilà, autant un autre milieu de terrain français, Camavinga, mais il est adulé par tout le monde. Je connais personne qui dise de mal de Camavinga. Autant de Tchouaméni, il y a beaucoup d'interrogations sur son réel apport au Real Madrid. Alors c'est vrai que cette saison est un peu compliquée parce que jouer 8 matchs quand même comme défenseur central lié aux nombreuses blessures qu'il y a au Real. Il a même fait un match avec Carvajal comme autre défenseur central au sein de la charnière avec lui, quoi.
Oui, donc, contre l'AFC
c'est pas facile, hein. Il a l'air de 1m12, hein, quand même.
On dirait qu'il a toujours joué là, etc. Tu dis il a pas convaincu tout le monde, mais t'as l'impression qu'il a convaincu Ancelotti quand même. Il l'adore.
Alors, Ancelotti l'adore. Il a été très gentil avec lui parce qu'il avait besoin de lui comme défenseur central.
Mais il était titulaire en début de saison, Fred, où il était vraiment bon avec le Real Madrid.
Il a jamais il a joué 62% des minutes possibles cette saison en Liga, donc ce qui est quand même pas mal, en sachant qu'il y a 8 matchs où il était obligé de jouer et de jouer toutes les minutes puisqu'il était défenseur central. Mais on peut pas dire qu'il se soit encore totalement imposé au Real Madrid.
Voilà. Moi, c'est ce qui me semble, Fred, en effet, ouais.
Ouais. Et puis moi, il y a une chose, je vais vous dire un truc dingue, c'est que moi, je le préfère comme défenseur central parce qu'il est hyper concentré, comme c'est pas son poste. Il est pas dans la fioriture, il est hyper concentré. Moi, ce que je n'aime pas de lui, et ce que beaucoup de gens lui reprochent à Madrid, c'est que quand il joue au milieu de terrain, il la joue un peu facile, il a parfois quelques petites absences, et franchement, il y a des pertes de balles qui sont incroyable à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, c'est un joueur. Ouais, c'est en espagnol, on dit ni fou ni fa. C'est on sait pas encore oui, vraiment si c'est un joueur pour le Real ou pas.
Tu disais 62% des minutes, Fred, quand même, entre début novembre et mi-décembre, il loupe une série de 7-8 matchs sur blessure.
Oui, aussi, aussi.
Quand il est dispo, il joue.
Non, je te dis, voilà, moi, son début de saison, j'avais vraiment bien aimé son début de saison. Après, encore une fois, au Real, où t'as à côté Kroos, t'as Mbappé, c'est pas la même chose. Mais globalement, moi je veux encore le répéter. Je dissocie ce qu'il fait en équipe de France du Real Madrid. Et moi, je trouve qu'en équipe de France.
Ce que tu dis de ses prestations de l'équipe de France rejoignent ce que dit Fred, ses prestations au Real. Je veux pas dire que c'est insipide, ce serait extrêmement sévère. Ça reste un très bon joueur de haut niveau. Mais
il n'est pas incontournable au Real. On se dit pas, oui, tu avais dit.
Tu imagines, toi, faire sa carrière au Real ou pas? S'installer pendant 10 ans au Real, Fred?
J'ai du mal à le voir.
Ah ouais?
J'ai du mal à y penser maintenant.
Autant qu'à un moment, ça peut coincer, tu penses?
Ouais, autant.
S'il joue, faut qu'il joue à son vrai niveau.
Autant qu'à Mafiga, mais il est parti pour une aventure extraordinaire au Real. Il a tout.
Après, Camavinga aussi, c'est un constant avec le Real Madrid. Hein.
Et avec l'équipe de France,
aussi, hein, mais c'est un constant. Hein.
Non. Ouais, enfin, cette saison, Camavinga.
Déjà, c'est 4 ans de moins, je crois.
Trouve-moi un mauvais match. Hein.
Ah, moi,
il a dû jouer latéral gauche.
Oui,
souvent,
d'accord. Hein. Mais moi, je préfère parfois latéral gauche au milieu
non.
parce que.
Ah non, au milieu, alors je suis pas d'accord.
Ah, bah parce que moi, je trouve qu'il y a. Après, on va faire un autre débat, mais je trouve que Camavinga, au poste de latéral, il a beaucoup plus de mètres à parcourir. Il arrive lancé. Il est beaucoup moins. Comment dire? Il est beaucoup moins prévisible. Au milieu de terrain, parfois, il y a eu aussi des pertes de balles qui peuvent être dérangeantes, Camavinga.
Mais c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, Camavinga, il est le joueur moderne par excellence.
Oui, il a des qualités.
C'est vraiment le joueur qui se projette vers l'avant. Et puis, souvenez-vous, la fameuse remontada contre le PSG, l'entrée de Camavinga est décisive.
Oui, non,
c'est-à-dire
oui.
que
c'est vrai.
Quand il est titulaire, il est incontournable. Et quand parfois il est remplaçant qu'il entre, parfois Ancelotti le réserve aussi pour révolutionner des matchs. Quoi. Voilà,
il est un peu plus électrique, il va un peu plus loin. Il est meilleur un petit peu dans les. Tu le remarques plus dans les petits espaces, dans les combinaisons, dans la créativité, dans l'initiative. Mais pour en revenir à Tchouaméni, c'est un mec qui sera forcément critiqué parce que dès qu'il a été titulaire en pro au Girondins, tu parles de suffisance, Walid, mais c'est des mecs qui jouent dès le plus jeune âge avec de l'assurance.
Oui,
et ces mecs-là, quand ils sont pas bons, quand ils vont se faire piquer la balle dans les pieds et que ça conduit à un but, qu'ils vont rater les passes, c'est plus de l'assurance, c'est de la suffisance parce que c'est un peu le style de jeu quand tu joues, que tu dégages cette confiance dans les transmissions, dans la façon dont même le port Altier, tu vois, il se tient très droit.
Tu parles de Joël Micou, là, c'est marrant.
Bah, un peu, mais je suis désolé, il a toujours eu cette élégance naturelle. Et ces mecs-là, quand ils passent à côté,
ce que veut dire Walid, c'est qu'on parle d'un joueur sur le papier qui est titulaire au Real, titulaire en équipe de France, et ça semble presque, excessif comme statut, par rapport à ses productions.
Je trouve qu'on lui en demande trop, on attend trop de Tchouaméni. Ouais.
Je vais accueillir Yannick au 32-16.
Moi, juste pour terminer sur la comparaison Camavinga-Tchouaméni, très rapidement, que ce soit au Real ou même en équipe de France, et surtout même au Real, c'est que Tchouaméni, c'est toujours 5,5, 6. Les matchs. Il y a pas de c'est assez neutre, c'est assez Camavinga est capable de faire 7,5-8 mais aussi parfois du 4 où il passait complètement à côté. J'ai ce sentiment là, c'est beaucoup plus spectaculaire Camavinga quand il est très très bon parce qu'il a un rôle et un profil qui est électrique. Et Tchouaméni, il prend pas énormément de risques, c'est toujours
t'as Kroos, Modric, Valverde à côté de toi,
j'aimerais
régulier.
Je dis juste que j'aimerais, et là il y a un test énorme, il va y avoir Real Madrid City. On va voir ce qu'il va. Là, moi, je l'attends. Moi, je veux qu'il soit très, très bon là-dessus. Et il y a pas mal de joueurs à ce poste-là en Europe, numéro 6, où aujourd'hui, c'était un milieu moderne aujourd'hui. T'es capable de faire. Et on ne doit pas attendre de Griezmann ou de Toni Kroos ou de Luka Modric de faire des choses. Il est capable de faire d'autres choses. Il l'a montré à Monaco.
Est-ce que c'est une vraie sentinelle? Parce qu'à Monaco,
il joue 8 alors.
C'est un 6. Le 8 c'est Kroos ou Camavinga, alors mais sincèrement, et quand tu vois le match contre City en face, t'as Rodri qui est l'un des trois meilleurs, peut-être le meilleur à son poste au monde.
Oui, qui est le meilleur à son poste.
Donc là, la comparaison, c'est terrible.
Bah, bien sûr, oui.
Yannick est avec nous.
Allez nous montrer le contraire.
J'accueille Yannick Walid, supporter du Real. Bon, salut Yannick.
De nous faire mentir.
Merci de ta patience, Yannick. Bienvenue dans Génération After. Alors toi, supporter du Real, ton regard sur celui de Fred également. Est-ce que tu es raccord avec lui?
Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont raison. Après, je pense que sur Tchouaméni, il y a une question de perception, c'est-à-dire qu'il y a ce que attendent les coachs, qui aiment beaucoup ce genre de profil, les mecs comme Deschamps. C'est un point qui me fait beaucoup penser à Rabiot un petit peu. C'est des joueurs qui sont très grands, très costauds, qui savent tout bien faire, qui vont tout bien faire, très intelligents. mais qui vont jamais dézonner, qui vont toujours respecter les consignes. Mais après, nous, en tant que supporters, et encore plus au Real dans les grands matchs, parce que bon, quand il faut jouer en Liga et tout ça, c'est une chose, mais dans les grands matchs, il faut amener de la folie, en fait. Il faut, et c'est pour ça que tout le monde préfère Camavinga à Tchouaméni, en fait. Parce que Camavinga, c'est vrai que, comme disait Walid, il va peut-être faire souvent quand il fait une erreur, malheureusement, c'est une erreur dans une mauvaise zone, qui va faire un but, qui va faire une action très dangereuse.
On se rappelle contre Liverpool l'année dernière, ouais, notamment avec le Real.
Tout à fait, ça arrive.
Il est capable
souvent
de faire ça.
Mais pas
il est
cette
capable
saison
de faire ça. Et pas c'est souvent saison. Plus, il le paye cash et ça fait mal parce que, franchement, il apporte tellement à côté quand il casse les lignes, quand il apporte et tout ça, que, honnêtement, moi, pour moi, je pense qu'il jouera pas contre City Tchouaméni. Parce que le milieu, là, sur les derniers gros matchs qu'il y a eu, c'est Kroos, Camavinga, Valverde.
Ouais, mais est-ce que Camavinga sera de retour, sera,
Ah non, c'est bon. Camavinga, il joue dimanche.
C'est bon, Yo?
Oui, ouais, c'est là, a priori, il joue dimanche contre la
Terre. Il joue Fred, il y a dit qu'il pose une bonne question, parce que est-ce que si tout le monde est là, Tchouaméni, on est sûr qu'il est
super passionné. Je suis pas loin de penser comme Yannick.
Non, mais c'est-à-dire que, comme pour reprendre les comparaisons de Walid, c'est un yaourt nature. Alors attention, c'est pas le yaourt nature à lire. C'est le yaourt nature de ces yaourts nature que tu vas manger dans un 3 étoiles. Hein. Parce que quand on dit, on lui en attend trop de lui.
J'aime bien.
100 millions, il est au Real Madrid, le gars. On n'attend pas trop de lui. C'est, il est en concurrence avec Kroos, Modric, Camavinga, Valverde. Donc,
il ne faut pas qu'il devienne ce joueur yaourt nature. Au contraire, moi, je pense qu'il doit faire mieux. Il peut faire mieux. C'est ça, en fait, mon message du soir. C'est de se dire, je suis arrivé, je suis au Real Madrid et je suis en équipe de France parce que faute de mieux, Camara est blessé. Il n'y a personne. Kanté, c'est
le nom de Bouba Camara, il y a beaucoup dans le chat.
Non, mais Bouba Camara, il est blessé. Bouba Camara, malheureusement, il est blessé. Il n'ira pas à l'Euro. Mais personne ne peut jouer au poste de numéro 6.
Camara, tu penses qu'il est, il est à la lutte avec.
Attendez, si ouais, doucement, quand même. Moi, je veux bien que
tu joues avec Camara.
Mais on ne va pas m'expliquer que Camara, c'est, il faut le mettre s'il est.
Personne n'y a répondu encore.
Vas-y, réponds-y.
Je dis juste qu'aujourd'hui.
Tu vas en mettre une.
Non, mais bon, quand même, tout de même.
J'ai dit juste qu'il n'y a pas d'alternative et peut-être que c'est à cause de ça que Tchouaméni est rentré dans un confort et dans une suffisance. Ouais. Et c'est peut-être aussi la faute de Deschamps.
Ça, c'est ton meilleur argument.
Voilà, merci en tout cas.
À 40 secondes de la pub, c'est bien.
Merci, je l'ai eu sur le gong. C'est un buzzer beater. Mais en tout cas, globalement.
C'est-à-dire que de Deschamps, tu précises parce qu'il a dit bravo.
Parce qu'il l'a installé dans le confort.
Peut-être qu'il se dit, il n'y a personne d'autre.
Ça manque de concurrence autour.
J'ai rien essayé autour, etc. C'est lui et pas autre chose.
C'est pas anodin qu'il n'y en ait que deux qui fassent les deux matchs. Mbappé, Tchouaméni.
Mais il y a une comparaison. Il y a une comparaison avec Rabiot. Mais si on a que des nonchalants, que des mecs qui au milieu de terrain, Rabiot ou Tchouaméni qui se regardent, à un moment donné, on se rend compte que sans Griezmann, oui, mais ces mecs-là, ils doivent faire plus. Aujourd'hui, Rabiot, la même chose. Nos milieux de terrain doivent faire plus. Et Tchouaméni, j'en attends beaucoup plus.
Bon, voilà.
Après, si je peux me permettre juste une dernière petite remarque, c'est que moi, je crois qu'il ne va pas changer son jeu. Il ne va pas faire plus. C'est un joueur qui fera toute sa carrière comme ça, comme Rabiot, qui a eu quelques éclairs, mais bon, qui rentre assez vite dans le rang. Il y aura toujours des clubs pour mettre des 100 millions, des 80 millions. Il ira peut-être à Manchester United, des trucs comme ça. Pour avoir des joueurs comme ça, des joueurs qui sont sûrs, qui sont bons partout, mais qui n'ont pas de dépassement de fonction. Et du coup, pour moi, je pense qu'il aura même pas besoin dans sa carrière de sortir.
5,5, 6 sur 10 à chaque fois, mais.
Ouais. Et tu l'as tout le temps,
Tu l'as tout le temps.
Ça fait un peu cher les 80 millions, 5,5, 6.
Ça dépend, parce que c'est. Il y en a qui ont. C'est le très haut niveau quand même. Après 5,5 sur 10,
après oui,
c'est le
haut niveau quand même.
Yannick, merci.
Au conseil de classe, c'est peut faire mieux.
Ah, ça c'est un autre débat.
Doit faire mieux.
Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra mener plus tard. Peut-il vraiment faire mieux?
Mais ne les exploite pas.
Merci Yannick. Très bonne soirée à toi. Fredo, merci d'être venu dans Génération After. On te retrouve très vite sur RMC, bien sûr, dans un instant. OMPG, les infos d'avant-match, bien sûr. Et cette question, ce match est-il aussi important pour Paris que pour Marseille? On vous attend nombreux au 32-16, supporters marseillais, supporters parisiens, bien sûr. Vous écoutez Génération After. Merci d'être avec nous. Et sur RMC, à tout de suite.